Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Point de vue. Aujourd'hui, la Salmon Bay Farm de la Basse-Côte-Nord reçoit un coup de pouce de l'incubateur et accélérateur nordique.
We designed it really to be a multifunctional space. So we operate it as a cafe, we've hosted weddings, catered suppers. A big part of our business plan was to diversify the offer.
On descend vers Québec-Ville où le gouvernement de la province refuse de soutenir le projet d'expansion d'une banque alimentaire.
C'est des économies de bout de chandelle. Il y a un Québécois sur 10 qui a besoin des banques alimentaires aujourd'hui. L'itinérance augmente, la crise du logement est plus grande que jamais. On a besoin d'investir là-dedans.
Sur notre route vers l'ouest, on passe par Toronto pour vous parler de recherche universitaire et en particulier dans un contexte minoritaire francophone.
On a des jeunes profs là, qui sont très dynamiques à l'Université de l'Ontario français. On commence à avoir des chercheurs qui obtiennent des financements du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ce qui est merveilleux. Mais c'est clair qu'on a besoin de plus de financement pour appuyer la recherche en français.
Et on s'arrête à Winnipeg pour vous parler du festival Freeze Frame, dédié aux jeunes cinéphiles.
On ne peut pas juste faire des films pour faire des films. Il faut faire des films qui laissent une trace, qui marquent, qui nous font grandir un peu à travers les personnages qu'on suit. Mais en gros, je te dirais que le message qu'on veut essayer de communiquer, c'est un message qui vient de Roch de Merce, qui était là avant moi, qui dit « La vie est très difficile, mais elle vaut la peine d'être vécue. »
Bienvenue à Point de vue, l'info locale, partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, bienvenue, merci de nous accompagner. Boris Chassagne avec vous pour les 30 prochaines minutes. On ouvre cette édition de Point de vue sur la Basse-Côte-Nord et on s'arrête juste en face du nouveau bâtiment multifonctionnel de la Salmon Bay Farm, inauguré en juillet 2024 à Rivière-Saint-Paul. C'est là que nous attend notre collègue Frédéric Lévesque qui nous apprend que la Salmon Bay Farm a reçu un coup de pouce de l'incubateur accélérateur nordique. L'incubateur accélérateur nordique qui propose un accompagnement sur mesure pour accélérer la réalisation de projets nature, culture, aventure, peut-on lire sur son site web. 5 autres projets de la région de la Côte-Nord ont été soutenus par cette cohorte de l'incubateur, comme celui de la pourvoirie Green Point, également située à Rivière-Saint-Paul. Frédéric Lévesque a profité donc de son séjour dans la municipalité de Bonne-Espérance pour rencontrer Shailen Roberts, l'une des 5 copropriétaires de la Salmon Bay Farm, la famille Roberts qui a plus d'une corde à son arc, elle qui gère aussi l'auberge Whitley Inn depuis 2022. Frédéric Lévesque posté à Tête à la Baleine au Québec qui nous permet de découvrir une partie de ces territoires reculés et les gens qui y habitent.
Alors que l'hiver a bien gelé les lacs de la Basse-Côte-Nord, le son du ruisseau qui s'écoule dans la baie au saumon retient notre attention lorsque nous stationnons notre camion sur le site de la Salmon Bay Farm à Rivière-Saint-Paul. L'entreprise d'élevage de pétoncles vient tout juste d'accueillir la cérémonie de fermeture du Forum annuel des partenariats de la Basse-Côte-Nord, organisé par l'association des Coasters. L'équipe de la Salmon Bay Farm a préparé le repas de l'événement de clôture et a reçu les participants et participantes dans son nouveau bâtiment multifonctionnel. Nous entrons dans ce nouveau bâtiment, qui est aussi un café, ouvert à la communauté.
Hi. Hi. Nice to meet you.
Nice to meet you.
Shailene Roberts est l'une des 5 copropriétaires de la Salmon Bay Farm. Nous nous rencontrons autour d'un breuvage sur son lieu de travail lors de notre passage dans la municipalité de Bonne-Espérance. En franchissant la porte du bâtiment, on entre dans un lieu baigné de lumière. La vue donne sur la baie au saumon, glacée et recouverte de neige à ce temps-ci de l'année. Shailene nous raconte que l'aventure entrepreneuriale de sa famille débute en 2022.
My mom always kind of did a little bit of consulting on the side, helping revitalize communities like ours.
La mise en vente simultanée de la ferme aquacole de Pétoncle, anciennement connue sous le nom d'Aqua Labadie, puis de l'auberge Whitley Inn, encourage la famille à se lancer dans ses acquisitions avec l'objectif de vivre et de prospérer en Basse-Côte-Nord. Les commerces sont regroupés sous l'entreprise familiale Rivage Grandir Shore Grow, une ancienne entreprise d'algues que possédait le grand-père de Shailene Roberts et qui est maintenant un cabinet conseil en développement communautaire et économique. un an après l'acquisition de l'auberge et de la ferme aquacole, des changements majeurs y sont réalisés. Rénovation des chambres pour les mettre au goût du jour à l'auberge et publicisation des activités touristiques de la ferme. Cela a fait doubler les revenus et les visiteurs de l'entreprise, qui sont passés de 700 à 1400. Selon Shailene, cette évolution rapide est la preuve du potentiel de la Basse-Côte-Nord.
That was a big excitement, and it showed, I think, the potential of Lorimer Shore and that there are more people passing through the region than we think there are.
Salmon Bay Farm a bénéficié du soutien de l'incubateur accélérateur nordique qui vise à propulser la croissance d'entreprises au nord du 49e parallèle. Les installations de l'élevage de pétoncles étaient devenues trop restrictives pour recevoir le flot de visiteurs croissant. C'est là qu'est venue l'idée de construire un bâtiment multifonctionnel qui a ouvert ses portes au public en juillet 2024 en accueillant les festivités d'un mariage. Le bâtiment est à la fois un café et un lieu pour organiser des événements et rassemblements communautaires.
We designed it really to be a multifunctional space. So we operate it as a cafe, we've hosted weddings, we've hosted kind of like catered suppers, we've hosted birthday parties, different things like that. But then a big part of our business plan was to diversify the offer.
L'équipe de Salmon Bay Farm planifie elle aussi ses propres événements. Soirée de peinture, meurtre et mystère, chasse aux œufs de Pâques. Cette fin de semaine, après le lancement de son premier souper de la Sainte-Patrick ce vendredi 14 mars, les gens de la communauté pourront même venir faire du yoga avec leurs chiens. Cet automne, Salmon Bay Farm a tenu pour la première fois un événement pour souligner la saison des citrouilles. La communauté était conviée à se procurer l'une des 700 citrouilles en provenance de Québec. Un total de 200 visiteurs du Labrador jusqu'à Vieux-Fort étaient au rendez-vous, ce qui était difficile à prévoir, étant donné que c'était du jamais vu sur la Basse-Côte-Nord.
It was kind of the first one to ever be held in their section. It's hard to know what to expect with everything we do. It's a lot of trial and error. But it's been a fun experience, I guess, to watch the community buy in, to get people excited. And it's really to not, I guess, let go of our local culture, but to also give more elevated experiences and make kind of the quality of life a little bit better while growing the business at the same time. So.
Pendant que ses collègues s'activent dans la cuisine derrière nous, Shailene nous explique que la mission première de Salmon Bay Farm est encore l'élevage de pétoncles et l'offre touristique complémentaire comme les expériences interactives et les excursions en bateau pour découvrir l'évolution de l'industrie locale de la pêche. La première saison hivernale de Salmon Bay Farm a commencé dans un mélange d'effervescence et de chaos. La copropriétaire nous confie cela avec un grand sourire qui ne la lâche pas d'ailleurs depuis le début de notre conversation.
It's trial and error, so we didn't account for all of the chaos of the hockey tournament season and influenza A, B, and LYU and all of these things, but it's been fun.
L'offre variée proposée par Salmon Bay Farm est unique pour la région. Shailene Roberts nous explique qu'actuellement, la famille fonctionne par essai-erreur. Certains événements sont populaires, d'autres moins. Dans tous les cas, la municipalité de Bonne-Espérance, celle de Blanc-Sablon et celle de la côte sud du Labrador les soutiennent. La connexion routière est certainement un atout pour Salmon Bay Farm, qu'elle soit d'asphalte ou de glace. Plusieurs ont découvert les activités Salmon Bay Farm cet hiver et souhaitent revenir cet été en famille avec le circuit Expédition 51 proposé par Tourisme Côte-Nord.
For the Lower North Shore, it's definitely a unique offer. It's trial and error, and we're trying new things all the time. Some things take off and are a big hit. Other things, we are playing with the timing of it.
Le principal défi en lien avec les nouveautés proposées par Salmon Bay Farm est la gestion des ressources humaines et des heures d'ouverture. L'entreprise a tenté d'instaurer un système de réservation pour certains événements, mais c'est relativement nouveau pour la région et les résultats étaient peu concluants. Dans les mots de Shailene, la mission générale de Salmon Bay Farm est de donner accès à des expériences de qualité à la communauté locale et aux touristes, où les visiteurs et les familles peuvent créer des souvenirs et développer un sentiment d'appartenance.
It's been a lot of fun to watch it all unroll and watch people come and see people post their pictures on Facebook with their families, and you can tell that people are doing what we want, which is make growing memories and making this kind of a milestone for their family of a place that they visit and have traditions at.
Avant de partir, Shailene et ses deux collègues présents sur place tout au long de notre conversation se remémorent en riant les mésaventures du mariage de juillet 2024 alors que le bâtiment était à peine terminé. Rappelons-nous, c'était le premier événement à voir le jour entre les murs du bâtiment.
When we hosted our first wedding, it's kind of it's a wild story a little bit. Not every bride would be this flexible, but she had a lot of faith in us. She booked us the summer before when it was just a concrete slab, and we told her what our vision was, and she said, yep. And she said, can you be ready for mid-July 2025? And we agreed to the challenge. And transport of Lauren ashore, our cables were supposed to arrive, I think, 3 weeks in advance, and we got them the night before.
La mariée avait dû faire preuve de beaucoup de flexibilité. Les tables sont arrivées la veille du mariage et les chaises n'ont jamais été livrées. C'est donc la salle communautaire de Vieux-Fort qui a prêté ses chaises à l'équipe. Le genre d'imprévu qui représente bien l'esprit d'entraide qui règne sur la Basse-Côte-Nord. Nous ouvrons, puis refermons derrière nous la porte du nouveau bâtiment de Salmon Bay Farm, accueilli par le même son du ruisseau. On monte dans notre camion direction Blanc-Sablon, avec encore en tête tous les projets de Shailene Roberts et de sa famille. C'était Frédéric Lévesque à Tête à la baleine pour l'IJL.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Le festival Freeze Frame 2025 de Winnipeg s'est conclu le 15 mars dernier. Plus de 5000 festivaliers s'y sont rendus, ravis de découvrir une sélection de films spécialement conçus pour éveiller la curiosité et l'imagination des jeunes publics. Ce festival international de films pour enfants a pris l'affiche au Centre culturel franco-manitobain. Freeze Frame, co-organisé par Pascal Boutrois, a proposé une programmation riche en films jeunesse et des ateliers éducatifs aussi. Monsieur Boutrois et le scénariste et producteur Dominique James sont au micro de Gaël Mpoyou à Winnipeg, au Manitoba.
À l'origine, je suis cofondateur de Freeze Frame avec mon épouse, Nicole Mathiasion. Et ce qu'on voulait faire, c'était amener à Winnipeg, qui a une population très diversifiée, amener des films qui émulaient un petit peu, qui ressemblaient un petit peu à la population, parce que ce que je pouvais voir, c'est que encore une fois, on était dominé par les films américains qui sont bons, mais il y a autre chose, et c'est important pour les jeunes de se voir d'une certaine manière valorisés par les films qu'ils voient, ou que ce soit à la télévision ou au cinéma. Ce que je voulais aussi, revenir à l'expérience, leur montrer l'expérience d'un visionnement collectif, c'est-à-dire voir un film, surtout maintenant où tout le monde regarde des films sur son téléphone intelligent, ou alors sa tablette, la télévision, mais chacun dans sa petite bulle isolée, mais montrer un film comme ça, comme on a montré Mademoiselle Bottine avec presque 300, c'est une autre expérience, et puis c'est une expérience collective. Tu vois, la programmation d'un festival de films pour enfants, c'est un jeu d'équilibre, hein, ou un équilibre géographique. J'essaie de faire venir des films des quatre coins du monde. Un équilibre aussi où j'essaie de trouver des films où les héros sont des garçons, ou les héros sont des filles, pour que personne soit frustré. Ça, c'est important aussi. Et puis, bon, j'essaie de maintenir un équilibre de 60% de films qu'on présente en version anglaise et 40% en version française. Et puis, mais là, ce qui est important pour moi, c'est de choisir les meilleurs films. Et aussi des films qui respectent la sensibilité des jeunes à chaque catégorie d'âge. Donc, pour les tout-petits, on a des films super mignons, comme Les Copains, là, qui est une série de télévision en animation 3D. Et puis, bon, plus on monte, là, les 7, 12 ans, etc., plus on a des films qui sont... stimulants d'une autre façon, notamment je pense à un film qui s'appelle Greetings from Mars, qui est sur un garçon autiste, c'est un film allemand, et que bon, ça a l'air sérieux comme ça, mais c'est très drôle, et ça va permettre aux jeunes qui vont voir ce film de ressentir de l'intérieur qu'est-ce que ça peut être d'être un jeune autiste et quelle est sa vie. Et puis pour les grands, là, pour les grands adolescents, on a donc ce film japonais Insomniac from School, After School, et puis on a aussi un film néo-zélandais qui est un film aussi avec une thématique autochtone.
Cette édition 2025 de Freeze Frame a également été marquée par la présence spéciale de Dominique James, scénariste et producteur primé, originaire de Montréal. L'invité d'honneur a présenté son nouveau film, Mademoiselle Bottine, sorti en 2024, qui met en vedette Antoine Bertrand et Marguerite Laurence.
Cette année, on était ici pour le film Mademoiselle Bottine, qui vient de sortir des salles de cinéma, qui était sorti au mois de novembre passé et qui commence à voyager un peu partout dans le monde. L'objectif, c'était vraiment de revenir pour être capable de dire, ben, on peut pas juste faire des films pour faire des films, il faut faire des films qui laissent une trace, qui marquent, qui nous font grandir un peu à travers les personnages qu'on suit.
Les réalisateurs a également tenu à rassurer les parents sur le choix des thématiques abordées dans ces films.
Ça va varier de film en film parce qu'on va vouloir adresser des thèmes différents. Puis à chaque fois qu'on arrive à un nouveau film, tu sais, mon équipe de développement puis moi, on va prendre un temps fou des fois à arrêter le processus parce qu'on sait pas encore ce qu'on veut dire avec ce film-là. Tu sais, fait qu'on va pas aller de l'avant à écrire un film tant qu'on n'a pas compris c'est quoi le message du film. Donc, on aime adresser différentes thématiques, mais en gros, je te dirais que le message qu'on veut essayer de communiquer, c'est un message qui vient de Roch de Mers, qui était là avant moi, qui dit « La vie est très difficile, mais elle vaut la peine d'être vécue. » Et Roch a répété ça toute sa carrière, et je le répète à mon tour, parce que effectivement, la vie a des défis. En grandissant un peu, l'âge de nos protagonistes, c'est 11, 12, 13 ans. C'est la perte de l'innocence, c'est quand on commence à avoir nos premiers échecs, nos premières peines d'amour, nos premiers... Et là, on est débalancé par tout ça. Je pense que nos films, à chaque fois, à travers les différents personnages, notre but, c'est de dire, ben, la vie vaut la peine d'être vécue. On peut surmonter les obstacles, et aussi, on est meilleur entouré des autres.
Le Festival international de films pour enfants Freeze Frame continue d'offrir une plateforme précieuse pour découvrir de talents comme Dominic James, tout en nourrissant l'imaginaire de jeunes cinéphiles d'aujourd'hui et de demain. Winnipeg, Gaël Poyot pour EGL.
Les enseignants et chercheurs de l'Université de l'Ontario français ont célébré ensemble le 15 mars dernier le dynamisme de la recherche francophone lors de la seconde édition de la journée de célébration de la recherche. De nombreux enseignants et chercheurs y étaient pour dévoiler les résultats de leurs projets de recherche et pour parler de ceux qu'ils convoitent, bien sûr. Linda Cardinal, vice-rectrice adjointe à la recherche à l'Université de l'Ontario français, s'est réjouie du dynamisme et des réussites des chercheurs de l'UOF. Madame Cardinal qui estime que les gouvernements provincial et fédéral doivent en faire plus pour soutenir la recherche en français et en particulier en milieu minoritaire. Annette Minka à Toronto nous a préparé ce qui suit.
Les études présentées ont exploré des sujets variés, allant des trajectoires migratoires et professionnelles des enseignants francophones aux conditions des travailleurs agricoles saisonniers autochtones entre le Mexique et le Canada, en passant par des avancées en santé, en sciences et en technologie numérique. Nous avons interrogé Linda Cardinal, vice-rectrice adjointe à la recherche à l'Université de l'Ontario français, qui s'est confiée sur les grands axes de recherche à l'UOF, le dynamisme des jeunes chercheurs, les défis de faire de la recherche en français en contexte minoritaire et le soutien provincial et fédéral limité.
On s'est donné trois grands axes l'année dernière à la suite de nombreux exercices avec les collègues, les professeurs de l'UOF. Le premier étant justice et équité. Le deuxième étant l'environnement et le troisième étant les sciences citoyennes et la pensée critique. Alors ça, c'est nos trois grands axes et on a demandé aux professeurs d'identifier à l'intérieur de ces axes des créneaux d'excellence qui seraient rassembleurs aussi, parce que les axes, c'est un peu notre signature, ce qui nous, notre impératif moral en recherche, ce qui nous rallie, des questions de justice, des questions de citoyenneté, des enjeux liés à l'environnement. C'est-à-dire, les travaux des professeurs tombent à peu près tous dans ces catégories. Et là, après, c'est ce sur quoi ils travaillent pour faire des contributions à l'avancement des savoirs, à l'avancement des pratiques. Et là, on voit bien l'immigration ressort très fortement comme un créneau d'excellence. La francophonie ontarienne, c'est-à-dire on est à l'UOF, on est à Toronto, et on voit bien que la francophonie torontoise, mais la francophonie dans son ensemble, est important pour les chercheurs parce qu'ils y situent leurs travaux. Et les sciences citoyennes, ça, c'est lié beaucoup à les enjeux liés au numérique, l'intelligence artificielle, les données sur l'environnement, les grands data. Et ça aussi, ça rallie beaucoup de chercheurs.
Et du coup, on parlait de francophonie. À votre avis, quels sont les défis spécifiques quand on fait de la recherche ici en Ontario, quand on parle français et quand on est francophone?
Oui, il y a beaucoup de défis. Les professeurs ici parlent des défis de recrutement pour faire des études. Ensuite, sur le plan très concret, là, quand on veut des banques de données pour travailler sur les francophones, bien, on a affaire à des petits groupes. Alors, c'est très difficile d'avoir des données très pointues, très granulaires pour dire qui sont les francophones de la région. C'est ce qui fait que on voit qu'il y a beaucoup de recherche qualitative qui est faite. Souvent, la recherche qualitative est moins bien vue que la recherche quantitative parce qu'on a l'impression que c'est moins solide comme données. Sauf que d'aller chercher l'expérience des gens, de travailler sur les représentations que les gens se font de ce qu'ils vivent ici en Ontario, c'est tout aussi important parce que ça peut aider à influencer les politiques aussi, puis ça peut faire avancer les connaissances. Avec ça, je dirais que c'est un défi important. L'autre défi, c'est la formation de la relève. On est des petits milieux. Nos établissements n'ont pas tous de programme d'études supérieures. Donc, nous, on commence très tôt à former la relève en recherche. Et ça, c'est un gros défi. On a vraiment besoin de programmes en français, de maîtrise et de doctorat dans des établissements ici comme à l'UR pour former notre relève en recherche. Et l'autre défi, c'est de faire reconnaître l'importance de la recherche en français. La recherche en français, elle joue un rôle essentiel dans le milieu de la recherche au Canada. La recherche en français en contexte minoritaire également, parce que c'est à travers cette recherche qu'on fait connaître ces communautés, qu'on les fait reconnaître aussi et qu'on est capable de montrer leur contribution au Canada, à l'Ontario, à la francophonie, et qu'on est capable aussi de mieux comprendre la réalité de qu'est-ce que ça veut dire être minoritaire dans un pays comme le Canada. Enfin, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein de défis à faire la recherche en français.
Justement, comment l'Université de l'Ontario français, comment vous favorisez les collaborations entre les chercheurs et les institutions? Est-ce que vous avez besoin de soutien supplémentaire au niveau fédéral, provincial, pour faire avancer la recherche? Comment ça se passe pour aider et faciliter justement ces chercheurs?
Bien, on a toujours besoin de soutien pour favoriser la recherche. Là, on est très heureux d'avoir obtenu un financement pour créer un observatoire en immigration francophone qui, lui, se spécialise dans la recherche appliquée sur toute la question des barrières systémiques au recrutement, à l'attraction, à la promotion, à la sélection des immigrants, parce que c'est une partie du parcours migratoire qui est très peu compris, très mal compris, et comme la politique d'immigration francophone veut accroître la démographie des populations francophones à travers l'immigration, mais c'est important de comprendre ce processus. Donc, l'Observatoire, c'est un plus en matière de recherche. C'est une nouvelle initiative très importante pour la recherche en français. Ici, à l'UF, on a créé un groupe de recherche interdisciplinaire sur la francophonie ontarienne qui a un volet économie très fort. On veut y associer d'autres volets, que ce soit la santé, le numérique, l'enseignement, par exemple. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, il y a des beaux travaux qui se font sur ces questions. Ensuite, on a accès à des financements des conseils de recherche en sciences humaines, mais on est un petit nombre. Comme on n'a pas de programme de maîtrise doctorat, c'est plus difficile pour embaucher des assistants. Mais on a des jeunes profs là, qui sont très dynamiques à l'Université de l'Ontario français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent des créneaux qui ne sont pas développés ailleurs. Comme on a des jeunes ici qui travaillent sur l'environnement en français, en Ontario français. En Ontario, je trouve, moi, que c'est très unique à l'Ontario français, mais aussi à la francophonie canadienne, parce qu'à l'extérieur du Québec, on n'a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent en environnement. Donc, l'immigration, c'est un créneau de spécialisation ici. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces questions en milieu minoritaire francophone, mais l'Université de l'Ontario français veut vraiment faire sa marque avec tout un travail de recherche qui se fait en ce moment sur les enjeux liés à la santé des populations francophones dans la région de Toronto et du centre-sud-ouest. Enfin, je pourrais m'éterniser, là, mais moi, je suis très enthousiaste, en tout cas, pour tout ce qui concerne la recherche à l'Université de l'Ontario français. Et j'espère que nos jeunes chercheurs vont pouvoir continuer parce qu'ils sont portés par un élan, ils ont un très grand dynamisme. On commence à avoir des chercheurs qui obtiennent des financements du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ce qui est merveilleux. Mais c'est clair qu'on a besoin de plus de financement pour appuyer la recherche en français.
C'était un reportage d'Annette Minka dans le cadre de l'initiative du journalisme local à Toronto.
Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.
La direction de la Banque alimentaire et centre communautaire Patro Laval de Québec s'étonne de l'absence du gouvernement québécois dans le montage financier de son projet d'expansion de 2,5 millions de dollars. Le centre communautaire Patro Laval, qui lance dans un mois ses travaux destinés à agrandir l'édifice qui abrite sa banque alimentaire, le gouvernement fédéral canadien et la Ville de Québec ont mis la main au porte-monnaie et financent respectivement le chantier à hauteur de 850 000 et 400 000 $. La directrice générale de l'organisme, Sonia Pichette, s'étonne du silence et de l'absence du gouvernement du Québec, mais elle ne perd pas espoir. Les détails avec Alice Zanetta.
On ne comprend pas que le gouvernement ne puisse pas embarquer.
La directrice générale du Patro Laval, Sonia Pichette, dit être plus que déçue de l'absence du gouvernement Legault.
C'est pas comme s'ils sont pas au courant des besoins qu'il y a là, dans le quartier Saint-Sauveur, dans la basse ville de Québec.
Le fédéral et la Ville de Québec ont mis la main au porte-monnaie, respectivement à hauteur de 850 000 $ et 400 000 $ pour financer ce projet qui est évalué à 2,5 millions de $ et qui vise à répondre à une hausse des demandes d'aide alimentaire dans le quartier Saint-Sauveur. La Ville de Québec a d'ailleurs quadruplé sa participation financière par rapport à ce qu'elle avait annoncé publiquement en juin dernier. Le maire de Québec, Bruno Marchand, refuse toutefois de dire que la ville a compensé le manque de participation du gouvernement provincial.
C'est pas des vases communicants aussi clairement que ça. La ville, ce qu'on voulait, c'est que le projet fonctionne. Alors, quand on a regardé les différentes contributions, c'est assuré que le projet puisse fonctionner. On a fait une contribution exceptionnelle.
L'élu de Québec solidaire, Étienne Grandmont, qui a versé 1 500 $ de son budget discrétionnaire pour le projet, rappelle qu'il ne manquait que 9 % du montant au projet, soit 200 000 $ pour qu'il soit complété.
C'est des économies de bout de chandelle. Il y a un Québécois sur 10 qui a besoin des banques alimentaires aujourd'hui. L'itinérance augmente, la crise du logement est plus grande que jamais. On a besoin d'investir là-dedans.
L'espace de 6 000 pieds carrés qui devrait ouvrir en décembre prochain accueillera, en plus de la banque alimentaire, une épicerie solidaire et des espaces plus intimes pour que les bénéficiaires puissent recevoir de l'aide. La directrice générale, Sonia Pichette.
Et ça va être vraiment une aile qui va être dédiée à tout ce qui est le projet d'entraide, que ce soit l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire et toute autre forme d'aide qu'on pourrait faire, là, qu'on pourrait apporter au niveau des citoyens du quartier Saint-Sauveur. Si quelqu'un a envie de se confier à des besoins particuliers, ben, qu'on puisse prendre le temps, là, pas devant tout le monde, mais de s'asseoir avec, puis de l'écouter et de le référencer.
Madame Pichette garde espoir que le gouvernement provincial finance une partie du projet. Une deuxième phase, liée au fonctionnement, est estimée à 500 000 $. Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Et c'est là-dessus qu'on conclut cette édition de Point de vue. Merci à Annette Minka, Alice Zanetta, Gaël Empoyo et Frédéric Lévesque. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ciao!
des questions, commentaires ou suggestions, écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.